下面用三
次。我的王三次。
Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce local conference call. Je m'appelle José et je serai votre coordinateur pour l'événement d'aujourd'hui. Pendant la durée de l'appel, vous êtes uniquement en écoute, mais vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de l'appel. Cela peut être fait en appuyant sur étoile 1, le clavier de votre appareil, pour enregistrer votre question. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez appuyer sur étoile 0 et vous serez connecté à un opérateur. Je confie maintenant la parole à Monsieur Pierre Danon, président du conseil d'administration, et Monsieur Eric Boustoulaire, directeur général de ce local, pour commencer la conférence d'aujourd'hui. Merci.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Je suis avec Eric. Nous sommes à peu près un mètre de distance. Pour vous donner une image de la société, nous sommes au quartier général de ce local, dans le building qui s'appelle City Light, à Boulogne-Billancourt. Nous sommes les deux seuls dans le building. Ça vous donne une idée de l'impact de cette crise du coronavirus sur notre société. Pour tout de suite vous rassurer dans la foulée, tous nos collaborateurs sont en télétravail. Aujourd'hui, l'équipe a fait un boulot extraordinaire de déportage de toutes les applications, qu'elles soient télévente ou travail ou même développement. Et aujourd'hui, je dirais que l'immense majorité de nos collaborateurs sont en télétravail et ça va venir à pratiquement tous, sauf ceux, et il y en a quelques-uns qui n'ont pas d'ordinateur à la maison ou pas de connexion Internet. Donc c'est un choc d'une violence inouïe. Bien entendu, on commence à avoir, on l'a vu depuis, seulement depuis 4-5 jours, mais par contre on l'a vu de manière extrêmement forte, des annulations de rendez-vous, beaucoup d'annulations de rendez-vous, des clients, y compris des grands clients, qui nous demandent de suspendre les campagnes jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est venu comme une vague juste après l'allocution du président de la République jeudi soir dernier, et évidemment avec celle d'Édouard Philippe samedi et celle d'Emmanuel Macron hier soir, ça ne fait que s'amplifier. Donc c'est un choc d'une violence inouïe, on n'est bien sûr pas les seuls. On est un peu protégé par le fait que on a passé 40% de notre base client en mode abonnement, ça nous protège un petit peu, mais ça nous protège pas de manière, totale, loin de là. Je reviens un peu en arrière, il y a 15 jours, notre stratégie était claire. Notre stratégie, c'était que on avait une dernière année un peu tendue à passer, 2020. Pourquoi ? Vous le savez tous, parce qu'il fallait payer la fin des frais de restructuration, en gros 60 millions d'euros qu'il fallait payer. Et à partir de 2021, on se voyait générer de manière très confortable et très opulente du bon cash flow et de la croissance. On avait annoncé une croissance de nos ventes digitales, reprise de la croissance de nos ventes digitales, de chiffre d'affaires digital en S2. On avait annoncé une croissance accélérée par rapport à l'année dernière de notre EBITDA digital. Une génération de cash flow de plus de 90 millions. Ce qui, au total, alors beaucoup d'entre vous savent faire leurs calculs, et vous l'aviez probablement fait, c'était le consensus de tout le monde, tous les analystes et tous nos contacts nous disaient, bon, ça passe 2020 en matière de cash, ça passe, mais vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, mais ça passe. Consensus était fort, et d'ailleurs l'obligation jusqu'à il y a quelques jours tradait à 95%, ce qui montre que la confiance était là. Bon, le choc est d'une violence inouïe. Il est arrivé de manière, comme je l'ai dit, très abrupte. Notre liquidité pour 2020 nous a apparu comme pas assurée. On s'en est, je vous dis, c'est à partir d'il y a 15 jours, avec une accélération de plus en plus, et la semaine dernière, on commençait à être conscient que dès qu'on faisait un scénario, hein, vous imaginez ce que sont les scénarios, 20% de baisse des ventes, 30% de baisse des ventes, en fait aujourd'hui on pense que ce sera plus que 30% de baisse des ventes pendant au moins les 3 mois qui viennent. Et ben dès qu'on faisait ces scénarios-là, on voyait tout de suite que ça passait pas et que on était en déficit de cash et de liquidité. D'où la décision que le conseil d'administration a pris vendredi de suspendre le paiement du coupon. C'est une décision qu'on a détestée, hein. On s'est battu jusqu'à jeudi soir en essayant de voir si par hasard on n'y arrivait pas, etc., etc. Mais elle s'est imposée à nous vendredi, c'était ce qu'il fallait faire, je dirais, en matière de mesures conservatoires. Aujourd'hui, on a du cash en caisse, on aurait pu techniquement payer ce coupon, mais il suffisait de projeter mars et avril, et on voyait tout de suite qu'on avait une difficulté, mai, juin, donc il n'était pas prudent, il n'était même pas déontologiquement acceptable, juridiquement acceptable, de payer ce coupon. Donc on a suspendu la mort dans l'âme et on a prévenu tout le monde. Bon, le résultat sur le cours de l'action a été d'une violence extrême, en ligne avec ce qui se passe sur le marché. Hein, vous avez vu comme moi tout ce qui se passe, mais pour nous ça a été extrêmement violent. Alors j'ai eu quelques questions. Est-ce que vous n'auriez pas dû suspendre le cours? C'est une vraiment bonne question et pour vous dire la vérité, on en a longuement discuté avec l'AMF. On est arrivé à l'AMF en leur disant nous on préférerait suspendre le cours et l'AMF nous a démontré en regardant le règlement de l'AMF et en se reportant à la technique juridique que c'était pas autorisé et que c'était pas dans les guidelines. Alors on aurait pu le forcer, on peut toujours forcer et prendre une décision contre l'AMF, mais elle était à la fois pas justifiée et l'AMF nous avait dit si vous faites ça, vous prenez vos responsabilités, mais faites attention. Bon, au total, dans cette discussion, c'est un peu une discussion académique parce que même si on avait suspendu le cours et qu'on avait réouvert, je pense qu'on aurait eu en gros le même effet. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une discussion qui soit d'une énorme valeur. Bon, on est où on est. Moi, je le dis très clairement, hein, comme vous le savez, j'ai investi 700 000 euros de mon argent, donc je suis vraiment dans le coup comme tout le monde, à hauteur de mon patrimoine. Je garde ma confiance pleine et entière au potentiel de l'entreprise. Hein, je n'ai aucun doute. J'ai fait 3 visites clients la semaine dernière avec les équipes, une chez SFR, une chez Casino et une chez Demeco, et je vois le potentiel de l'entreprise, il est là, il est fort, il est puissant. Il y a pas de changement sur notre potentiel. Mais effectivement, il y a une grosse difficulté sur 2020. C'est une vraie difficulté. On va discuter avec tout le monde, avec bien sûr nos obligataires. On va aussi discuter avec nos actionnaires, on le fait, hein, grand comme petit. C'est pour ça que j'ai voulu absolument faire ce call pour que tous les actionnaires qui ne sont pas institutionnels puissent rejoindre et avoir aussi une explication. Donc on entame nos discussions. On ne peut pas vous en dire beaucoup plus. Parce que elles ont même pas en fait vraiment démarré les négociations et les discussions, mais ça va être très intense bien sûr pendant le mois ou je pense les 2 ou 3 mois qui viennent. Enfin, on va déjà se concentrer sur le mois puisque comme vous le savez, on a 30 jours pour réparer le fait que on n'ait pas payé le coupon, ça nous met en défaut potentiel. Mais on a 30 jours pour apporter les moyens et les remèdes. Bon, bien entendu, on va faire tout ce qu'on peut pour le faire. Donc, il y a une période très intense pendant les 30 jours qui viennent. Dès que on aura des informations qui sont communicables, vous pouvez compter sur nous pour vous les communiquer, bien entendu, et informer tout le monde de manière transparente. Moi, en tant que président du conseil, je vais absolument essayer de trianguler entre les uns et les autres. C'est-à-dire de faire en sorte que la solution, mon objectif essentiel c'est quand même la pérennité de l'entreprise hein, et de ses collaborateurs, mais de l'entreprise, mais il y a des stakeholders comme on dit, il y a des obligataires bien entendu, qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance depuis longtemps, qu'on apprécie énormément, donc bien sûr on aura une discussion que je ne veux pas antagoniste, bien entendu, essayer de trouver les bons points de passage. on est des actionnaires, on a des actionnaires dont certains ont tout perdu, et c'est extrêmement douloureux, et je respecte ça. Donc c'est quelque chose que, bien entendu, je prends très 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 sérieusement à cœur. On a nos collaborateurs, c'est aussi important. On a l'État, je vais le dire de manière très claire, le président Macron a indiqué très nettement un certain nombre de moyens pour nous protéger, protéger des entreprises telles que Solocal. On va bien entendu les jouer à fond, autant qu'on peut. Vous avez entendu le président de la République dire que sur le paiement des charges sociales et de la TVA de mars, on pouvait en décaler le paiement. Bon, bien entendu, on l'a fait et on va le faire. Il a parlé aussi de mesures de chômage technique qui seraient compensées par l'État. Bien entendu, on est en train de travailler avec les instances représentatives du personnel de l'entreprise. Mais à ma connaissance, il y a un CSE, comme on dit, qui est prévu pour mercredi, pour discuter avec nos partenaires sociaux des modalités de mise en place du chômage technique. Mais c'est évident qu'il faut faire du chômage technique, parce que la caractéristique de Solocal, c'est sa grosse base de coûts fixes. Donc il faut absolument, quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, réduire la base de coûts fixes. Donc on va s'y attacher. Donc comme vous le voyez, tous les stakeholders, tous les gens qui ont un intérêt vont être mis à contribution. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit le plus juste possible, c'est-à-dire que tout le monde aide à la roue, parce que tout le monde doit le faire. C'est une question aussi de solidarité, de faire ça le plus rapidement possible. Sur le plan opérationnel, et je terminerai par ça, Eric et ses équipes ont fait un super travail de mise en place du télétravail. Ça a commencé hier. Bon, les gens ont dû se familiariser un peu avec l'application déportée. On n'était pas au niveau de productivité idéal, mais on a produit. On a produit hier, c'est très très important. Et je pense que la montée en puissance de la production va se faire. Alors, elle se fera jamais jusqu'à 100%, hein, là, il faut vraiment pas rêver. À la fois parce que les gens qui sont en télétravail et qui gardent leurs enfants ne peuvent pas donner 8 heures par jour. Ils peuvent donner 3 ou 4 heures, donc voilà, on va utiliser ces 3 ou 4 heures de production au mieux qu'on peut, et puis aussi parce que beaucoup de nos clients ne veulent pas de rendez-vous, ne veulent même pas de discussion, de call, donc ne vous attendez pas à une reprise de la production à 100%, mais on a repris la production, et on va chercher à l'accélérer. Et pour terminer, Eric et ses équipes travaillent sur des approches de communication positive vis-à-vis de notre base de clients. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider les TPE, les PME et même les grands groupes à communiquer dans cet environnement qui est difficile pour tout le monde. On va le proposer. Il y a des choses qu'on va faire gratuites pour aider tout le monde. Il y a des choses qu'on va faire éventuellement avec une contribution de la part de nos clients. Mais notre idée, c'est d'être partie de la solution pour la France. Et à la fois, ça peut aider, bien entendu, ça doit aider Solocal. Voilà où on en est. Eric et moi sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
Juste un petit point avant de poursuivre. Je sais que certains d'entre vous ont eu quelques difficultés pour nous joindre. Personne est en fait... Enfin, tout le monde est touché par la crise du coronavirus, donc il y a moins d'opérateurs que prévu chez notre prestataire. Mais je crois qu'on est maintenant une petite centaine au téléphone, donc tout le monde a dû y parvenir. Donc on est maintenant, évidemment, disponible pour toutes vos questions.
Première question. Vous pouvez avoir la gentillesse de dire votre nom et qui vous êtes.
Merci. Si vous souhaitez lui poser une question ou faire un commentaire sur la conférence d'aujourd'hui, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. On a maintenant une question de Eric Blen de Finance Connect. Merci.
Oui, bonjour.
Bonjour. Pareil.
Plusieurs petites questions. Je comprends bien le choc. En même temps, je me posais une question parce qu'on voit quand même beaucoup d'opérateurs accélérer leur offre en termes de digitalisation. Les marionneaux, tout le monde essaye de vendre par Internet puisque le magasin est fermé. Est-ce que vous constatez là une opportunité? Est-ce que vous ne pensez pas d'ailleurs que de manière plus structurelle, sur le long terme, on ne va pas avoir justement une tendance vers une digitalisation très forte en termes de communication, en termes de vente?
Mais je vais passer on va prendre question par question, si vous voulez bien, Eric. Et là, bien sûr, c'est Eric qui va répondre à votre première question.
Eric, donc sur ce sujet, le pari de l'internet et de la vente de nos services par internet, c'est un pari qu'on a pris et qu'on a inscrit même dans notre stratégie en février 2018. On l'a opérationnalisé à partir de l'année dernière avec le lancement de solocal.com en février 2019, et on a eu une petite traction sur cette activité dès l'année dernière. On va le poursuivre sur l'année 2020. Mais il faut bien comprendre, ça correspond aussi à un certain nombre de services. On peut pas vendre tout et n'importe quoi sur Internet, et il faut que les services correspondent à la demande. Cette demande, c'est en particulier pour des produits qui vont être des produits principalement d'entrée de gamme, extrêmement simples à utiliser, voire des produits qu'on peut construire soi-même. C'est la raison pour laquelle cette année, à notre agenda, dans notre roadmap, nous allons lancer des sites « do it yourself » ou « do it with me ». Vous construisez votre site par vous-même. Et donc, dans le deuxième semestre de l'année 2020, on aura cette offre au catalogue. On va simplifier aussi les offres présence, de façon à avoir une offre essentielle qui sera également simplifiée, même si elle offrira plus de fonctionnalités et qui correspondra aussi en termes de prix au budget que nos prospects et clients sont prêts à consacrer à ce type de services digitaux. Donc la réponse, c'est oui. Et ça va être en accélération sur l'année 2020 et évidemment avec une ambition sur les années qui viennent dans le domaine du online.
Okay. Ma deuxième question, c'est que vous aviez un problème structurel de dette obligataire à l'horizon 2022. Est-ce que dans la réflexion qui s'offre à vous pour les 30 jours qui arrivent, vous pensez reprendre toute la globalité de la restructuration ou est-ce qu'il s'agit simplement de prévoir l'opération du coupon? Et en l'occurrence, j'aurais bien aimé si vous pouviez nous donner quelques éléments sur la structure des porteurs des obligations, de quel type de catégorie d'investisseurs il s'agit. Et peut-être nous dire un petit mot de votre profil actionnariat, justement. Vous aviez un moment...
Je vais prendre ces questions, Eric. Depuis notre arrivée à la tête de Solocal, on a toujours indiqué que la dette de Solocal, qui était une dette de sortie de restructuring, et qui était donc une dette qui était à la fois coûteuse, mais aussi très contraignante en matière de covenants, était une dette qu'on voulait refinancer. On s'y est pris deux, trois fois depuis 2018 pour essayer de la refinancer et à chaque fois on s'est trouvé devant une vraie difficulté où nos conseils nous ont dit « n'y allez pas, vous allez vous planter, vous n'allez pas y arriver ». Donc et j'ai indiqué en début d'année de manière très très claire que notre objectif en 2020 était de refinancer la dette de Solocal. Bon. Il y a un mois, on avait très confiance dans l'état des marchés et la possibilité de refinancer cette dette. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus délicat. Ceci dit, dans les discussions qu'on va avoir, et je n'en dirai pas plus à aujourd'hui, mais on veut ouvrir tous les champs du possible. Bien entendu, on a un problème de cash 2020 qu'il faut régler. Mais on a aussi un problème de structure de dette qu'on aimerait bien pouvoir régler en même temps. La question c'est, est-ce qu'on trouvera l'opportunité dans la négociation avec les uns et les autres de trouver un point de passage pour faire à la fois le cash 2020 et la structure de la dette? Évidemment, je l'espère, mais je peux pas, loin de là, garantir quoi que ce soit à ce stade et surtout discloser quoi que ce soit de discussions qui n'ont même pas encore commencé, pour être très clair. La dette obligataire est pour une grande partie d'entre elles concentrée sur un certain nombre d'acteurs. La chance de ce local, c'est que ce sont de bons acteurs. Ce que j'appelle de bons acteurs, ce sont des acteurs qui sont avec nous depuis 3 ans, avec lesquels on a un dialogue tous les 3 mois, voire plus fréquent que ça. Qui sont des gens qui ont beaucoup d'amitié pour ce local, qui veulent le succès de ce local. Donc c'est pas, si vous voulez, la description qu'on peut faire de temps en temps du hedge fund très agressif. Non, c'est pas ça qu'on perçoit de nos obligataires aujourd'hui. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir avoir de bonnes conversations et trouver les bons points de passage. La structure actionnariale de Solocal, sur votre question, elle est aussi assez concentrée. C'est-à-dire, c'est un mélange. Vous avez 67% du capital qui est aux mains de 20 actionnaires, et ce sont les mêmes depuis 3 ans. Donc c'est une structure qui est... Alors à l'intérieur de cet actionnariat, vous avez au gré des opportunités ou des risques de chacun des actionnaires, vous avez des fluctuations à l'intérieur de ces 67%, mais les 20 qui étaient là il y a 2 ans et demi... sont toujours là, 2 ans et demi après, et représentent toujours 67% du capital. C'est une de nos chances, et bien évidemment, ce sont des gens qu'on respecte beaucoup, qui nous aiment bien, et avec lesquels on travaille, alors là, c'est plus qu'une fois tous les 3 mois, c'est probablement 2 ou 3 fois dans les trimestres, au gré des annonces ou des périodes de blocage, etc., qu'on discute avec eux. Mais il y a aussi, et c'est un de mes sujets personnels, il y a aussi 70 000 petits actionnaires qui représentent en gros 20% de la capitalisation et pour lesquels j'ai beaucoup de respect et d'attention parce que ce sont pour la plupart des gens qui ont investi énormément de leurs économies il y a 10 ans ou 15 ans des fois à des valorisations énormes et donc qui ont perdu énormément d'argent dans l'aventure Solocal. Et donc, ils ont bien sûr mon respect, mon attention, et j'essaye de faire en sorte, dans tout ce que je fais, les prendre en considération dans les différentes équations qu'on va être amené à développer. Voilà, c'est la réponse à vos questions, Eric. J'espère qu'elle vous satisfait. Et on peut passer à une autre série de questions d'un autre interlocuteur, si vous le voulez bien.
La prochaine question... Je viens de la partie de Conor Rocher, de Capital Chevreux. Merci.
Oui, bonjour Pierre et Eric. Juste deux questions de ma part. Première question, Pierre, vous avez évoqué une baisse supérieure à 30% dans les ventes pour le deuxième trimestre, sachant que c'est normalement étalé jusqu'à 6 à 8 trimestres suivants. Est-ce qu'on pourrait y avoir une idée de l'impact directement sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, une fourchette, je sais que c'est très incertain.
On peut pas faire ça. Honnêtement, on peut pas faire ça. On est en train, j'ai cette semaine, pour être très transparent, cette semaine, les équipes sont en train, au vu de ce qu'on voit, parce que ça bouge tous les jours, j'ai dit 30% au moins, c'est mon, comme disent les Anglais, c'est mon gut feel, c'est mon intuition. Mais honnêtement, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Notre problème, c'est qu'on n'en sait rien aujourd'hui. On a vu suffisamment de choses se passer la semaine dernière pour dire ça pourrait bien faire ça. Et à partir, c'est pour ça qu'on a suspendu le coupon, parce qu'on a vu que même si je faisais un stress case, comme on dit, à 30% de vente en moins, je suis tout de suite en difficulté. Donc l'équipe a dans la semaine qui vient, peut-être un peu plus, mais je leur ai demandé que ce soit dans la semaine qui vient, ils vont estimer à la fois ce que ça pourrait faire sur nos ventes, et donc comme vous le dites très justement, et donc sur le chiffre d'affaires, puisque et sur le cash, parce que c'est à la fin, c'est le troisième qui m'intéresse avant tout. Donc ils sont en train de faire ces simulations. Ils vont aussi voir qu'est-ce qu'on peut économiser. Le chômage technique va nous faire économiser. Eric a comme à son talent a quand même s'est assis sur les dépenses de manière assez puissante. Donc réduction des dépenses, chômage technique, impact sur les ventes, et j'en sais pas plus que vous aujourd'hui. Si vous me demandez même un gut feel de l'impact sur le cash, là j'en ai aucune idée. Donc on va faire ça et on va bien sûr travailler sur cette base avec le conseil d'administration. Les gens qui signeront un NDA pour rentrer dans la négociation pourront avoir accès à ces chiffres et on verra. On verra vers où ça nous emmène. Et votre deuxième question, c'est pour Eric.
La deuxième question était juste pour le... Allez-y, pardon.
Je vais compléter. Je pense qu'il est important de dire aussi, parce que vous avez posé la question sur le chiffre d'affaires. Rappelez-vous que notre chiffre d'affaires est en fait le résultat d'un déversement des ventes qui se produit en amont. Je rappelle que le quatrième trimestre 2019 était en croissance. Et donc une partie et donc le déversement de ces ventes va donc se réaliser en chiffre d'affaires sur cette année. Nous avons démarré l'année 2020 avec plus de 50% de notre chiffre d'affaires déjà réalisé et le fruit de l'année 2019. Et je rajouterai à ce point-là, c'est que jusqu'au 7-8 mars, c'est-à-dire au début du mois de mars, avant l'impact de la crise qui a commencé à se faire sentir la semaine dernière, avec des annulations de rendez-vous, avec des décalages, avec des demandes de retard, de report de paiement, etc., etc. Donc jusqu'au 7-8 mars, considérez qu'on était en ligne, globalement en ligne avec notre budget. Un budget qui, je le rappelle, avait comme guidance de délivrer un retour à la croissance du chiffre d'affaires digital sur cette année. Donc on était sur une traction, ce qui était la traction qu'on s'était fixée pour l'année. Et cette crise intervient et effectivement crée une rupture pour laquelle on est en train d'analyser, sur la top line évidemment, mais également sur les charges. Et croyez bien qu'on prend toutes les dispositions pour couper toutes les OPEX qui vont nous permettre de passer cette phase dans les meilleures conditions, et ça pour les 4 à 8 semaines qui viennent.
Vous aviez une deuxième question.
Oui, c'était justement sur la flexibilité des coûts. Donc je pense que vous avez bien répondu. Que vous allez tirer sur tous les leviers, mais vous avez une fourchette en tête.
Bien sûr, à l'instar de toutes les entreprises, considérez que toutes les 80-90% des dépenses marketing vont être coupées sur la période. Je dis 80-90%, pourquoi ? Parce qu'on va se réserver une capacité de communication malgré tout, pour accompagner nos clients, pour démontrer à nos prospects à un moment donné, dans la période où on va pouvoir redémarrer, on veut s'assurer qu'on met le paquet au bon moment. Donc, comme l'a dit Pierre également, on va faire appel probablement au chômage partiel pour une partie des équipes, même si on va rester au contact de nos clients, au contact de nos prospects sur toute la période. Mais néanmoins, on a bien conscience que la capacité à 100% ne sera pas nécessaire dans cette période difficile.
Normal. Et les coûts de marketing, les charges de marketing annuelles à peu près dans une année normative, ça pourrait être de quelle ampleur ?
Sur une année comme cette année, on est aux alentours d'une, je vous donne une approximation, une dizaine de millions d'euros.
Dizaine de millions, ok, super.
Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup,
à bientôt. Une autre question ?
La prochaine question vient de Jean-Jacques Lemoine. Allez-y, s'il vous plaît.
Allô, bonjour Monsieur Bousser, bonjour Monsieur Dano.
Bonjour Monsieur Lemoine.
Bonjour. S'il n'y a pas d'accord avec les détenteurs d'obligations, vous avez évoqué que vous cherchez des solutions, mais quel pourrait être l'impact pour les actionnaires ?
Ah, vous pouvez, Monsieur Lemoine, on peut envisager des scénarios catastrophes. On peut toujours envisager des scénarios catastrophes. Pour l'instant, je ne vois pas pourquoi il y aurait de scénarios catastrophes. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit en introduction, le potentiel de l'entreprise, il est là. Il est puissant, il est exactement ce qu'on avait dit il y a 15 jours. Donc on a besoin, je crois que c'est le président de la République qui a dit, on a besoin de se mettre sous cloche pendant 3 mois, d'essayer de neutraliser les effets négatifs, mais quand on discute avec nos obligataires ou même avec nos actionnaires, ils voient que le potentiel est là, c'est une belle entreprise avec un super potentiel sur lequel la transformation est faite, en tout cas pour l'essentiel. Donc ça va, j'espère, faciliter les discussions avec les uns et les autres et éviter la politique du pire. Au-delà de ça, c'est très difficile de vous dire où est-ce qu'on va atterrir, et ce serait spéculer et puis potentiellement faire quelque chose de négatif. On est allé au tribunal de commerce hier, parce que vous savez qu'on est en sortie de sauvegarde, comme on dit, donc on a on a beaucoup de protection par la loi française. Hein, la France est un des pays dans lesquels, quand on est en difficulté financière, on est bien aidé par les structures juridiques. Donc, bien sûr, on a déclenché ça. On était obligé de le faire de toute façon, donc on n'avait pas le choix, tout le monde le sait. Et donc ça va nous mettre un certain nombre de filets de protection au cas où la négociation ne se passerait pas de manière satisfaisante. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est le plus vite possible de trouver les points de passage entre l'État, les obligataires, les actionnaires. Et comme je vous l'ai dit, Monsieur Lemoine, mon rôle de président, c'est absolument de m'assurer que les intérêts des uns et des autres sont protégés autant que faire se peut. Je vais vous donner un exemple. Dans notre tournée des popotes d'hier, on a entendu un stakeholder nous dire « Vous n'avez qu'à pas payer les indemnités de rupture. » C'est vrai qu'on a 60 millions à payer cette année. Quelqu'un nous a dit, et après tout, pourquoi pas, surtout quand on ne travaille pas en France, hein, il nous a dit « Pourquoi vous payez les indemnités de rupture ? Ne les payez pas. » Donc il a fallu lui expliquer que, en France, ça c'est des créances super privilégiées, c'est comme du salaire, et il est absolument impossible d'envisager le report de ce paiement. Mais voyez, on essaye de faire en sorte que la loi de temps en temps nous y oblige, nous y incite, on essaye de faire en sorte que tous les stakeholders, tous les intervenants soient traités de manière transparente et faire et le mieux possible.
Merci beaucoup, M. Lano. Merci.
Merci, M. Lemoine.
On n'a plus de questions à la ligne. Comme rappel, si vous voulez faire des questions, s'il vous plaît, c'est étoile 1. La prochaine question vient de la partie de Baudouin de Pimodin, s'il vous plaît.
Oui, allô.
Bonjour, Baudouin.
Oui, bonjour, Eric. Bonjour, Pierre. Non, simplement pour l'historique, puisque je pense que vous allez avoir Madame Bourboulou comme interlocutrice, je voudrais vous rappeler, parce que vous n'étiez pas là, que Madame Bourboulou a vendu à la dernière augmentation de capital que la société valait 1,5 milliard et s'était appuyée sur ses experts qu'elle nous présentait, et que bien entendu les 400 millions étaient remboursables sans aucun problème et qu'elle avait présidé à un plan équilibré. Depuis maintenant 3 ans, la société délivre du cash qui lui permet de payer un intérêt quand même assez substantiel. Et j'ai bien entendu, lorsque vous m'avez dit nos obligataires sont des amis et on ne va pas être en conflit avec eux, mais on va trouver une solution. Je crois quand même que un taux d'intérêt de 10% qui a été négocié à l'époque est quand même un peu, je crois que tout le monde en conviendra, excessif. Et qu'ils peuvent, sans trop de problèmes, faire un effort pour diminuer ce taux sans que cela porte conséquences pour eux. Ça, c'est la première chose. Et qu'effectivement, dès lors que vous avez confiance sur la capacité de la société à distribuer du cash à partir de 2021-2022, étant entendu que la situation actuelle trouve une fin, je pense que quand même vous avez des éléments pour, de ce côté-là, améliorer la situation de la dette dans la discussion avec les obligataires et sans que ce soit un bras de fer insupportable pour les obligataires.
Baudouin, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait partie de la discussion et j'entends bien que cette discussion soit menée avec nos partenaires obligataires. Je voudrais qu'elle soit menée dans la bonne humeur, la convivialité, le respect, en essayant de trouver les points de passage qui permettent à tout le monde de sortir de manière acceptable. Mais vous avez tout à fait raison. La dette qu'on a est une dette qui est coûteuse, qui est lourde, et un de mes objectifs, c'est effectivement, pour le futur de l'entreprise, d'avoir quelque chose qui soit moins pénalisant. Donc, votre point est bien fait. Je connais Hélène Bourboulou depuis des années. J'ai le plus grand respect, la plus grande amitié pour elle. Je suis en contact très très intense avec elle. Je sais avec Hélène que si on lui donne les bons objectifs, je parle d'objectifs légaux, hein, elle nous aidera et elle est quelqu'un qui sait trouver les consensus. Donc comptez sur moi pour être le donneur d'ordre d'Hélène, hein, de faire en sorte qu'elle comprenne bien quels sont les objectifs de l'entreprise. Mais pour avoir eu une expérience réussie avec elle, je sais qu'elle le fera très bien. C'est vrai, pour finir, hein, que quand on est arrivé, Eric et moi, il y avait un plan qui avait été fait, voilà, et qui donnait l'idée que la partie le business plan était très opulent, hein, en matière de la dette, c'était rien du tout, et le plan allait passer. Bon, en fait, je pense que ce plan, que tout le monde avait approuvé, hein, et sur lesquels, en arrivant, Eric et moi, ben, on l'a pris et on a essayé de le faire fonctionner. Il faut reconnaître que ce plan ne prenait pas en compte la difficulté, le challenge qu'était transformer ce local et le temps que ça allait prendre et la difficulté qu'on a rencontrée pour mettre l'entreprise sur les bons rails. La bonne nouvelle, c'est qu'elle l'est sur les bons rails et qu'elle est très prometteuse. La mauvaise nouvelle, c'est que ça a pris plus de temps que prévu et donc on est dans une situation de cash difficile. Mais votre point sur les obligataires est tout à fait dans mon esprit, sans aucun doute. Et nos amis obligataires savent que on va devoir discuter, il n'y a pas de doute.
Je me permets simplement de réagir une seconde. C'est qu'à l'époque, il y a 3 ans, tout le monde plaignait les créanciers en disant, vous comprenez, les pauvres créanciers, etc. Et de toute manière, ils sont prioritaires. Et tout le plan et tous les raisonnements, que ce soit du tribunal de commerce que nous avions vu ou approché, étaient, attendez, ce sont les créanciers qui passent les premiers. Pourquoi pas? Mais dans quelles conditions? Le taux de 10% qui est appliqué aujourd'hui est un taux, je dirais, même incompréhensible. Voilà. Et il a été approuvé. Donc, il ne faudrait pas qu'on retombe dans le même type de raisonnement en disant les créanciers, les pauvres créanciers. Ils ont
Je ne suis pas dans ce raisonnement. Benoît, je vous rassure, mais vous me connaissez, je ne suis pas dans ce raisonnement. Je suis dans le raisonnement de trouver un équilibre entre les efforts qui sont demandés aux obligataires, aux actionnaires, à l'État, j'insiste vraiment, à l'État, et peut-être à nos collaborateurs, c'est à voir. Pour l'instant, le chômage partiel, c'est jamais quelque chose qui est très agréable pour les collaborateurs. Les contraintes qu'ils vont devoir subir, il y en a, sont pas forcément faciles pour eux. Mais donc, je voudrais que chacun et chacune prenne sa part de l'effort pour aider ce local à passer ce cap.
Très bien, merci.
Est-ce qu'il reste une ou deux questions encore?
On a 3 questions pour l'instant. La prochaine vient de la partie de Jamel Becky, de ce local. Allez-y, s'il vous plaît.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, donc en fait, moi, je me permets de vous appeler. Voilà, je ne suis pas vraiment, parce que je vois que votre discours est un petit peu vraiment technique. Et moi, ce que je voulais juste savoir, c'est que est-ce que vous allez faire appel aux actionnaires, c'est-à-dire pour une augmentation de capital, tout simplement.
Jamel, c'est comme je l'ai dit, toutes les solutions sont sur la table et bien sûr qu'une augmentation de capital est une des possibilités. Avec le cours de l'action à 13 centimes, c'est une possibilité qui est pas facile parce que il faut émettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions à 13 centimes pour avoir un petit peu de cash flow. Donc c'est pas forcément la solution la plus efficace pour passer le cap de 2020. Mais elle est dans le cocktail des réponses possibles et bien entendu, on est en train d'examiner. Mais je vous le dis, hein, à 13 centimes, l'augmentation de capital, il faut émettre. On a 600 000 actions, hein, ayez en tête ça. On a 600 000 actions, un peu plus que 600 000. Donc en gros, si vous voulez, l'actionnariat, il représente 75 millions d'euros. 600 et quelques mille actions multipliées par 13 centimes. Il y a 75 millions du côté de la valeur des actions et 450 millions du côté de la dette. Hein, c'est comme ça que, pour l'instant, les équilibres sont constitués. Pas forcément facile d'être très efficace avec une augmentation de capital, mais ça dépend. C'est pas totalement exclu non plus, loin de là.
D'accord, parce qu'en fait, j'ai remarqué aussi qu'à plusieurs reprises, vous avez fait ce qu'on appelle des regroupements d'actions. Donc, pour que, voilà, sorte de, enfin, qu'elle ne soit pas une pélistoque, et au final, elle revient toujours au même endroit. C'est-à-dire que même quand elle était cotée, par exemple, je sais pas, 30 centimes, ben on multipliait par 30, voilà, on avait une seule action qui valait par exemple une dizaine ou une trentaine d'actions par rapport à avant, et au final, elle retrouve toujours son cours d'avant le regroupement d'actions. Ça veut dire que finalement, les personnes, c'est-à-dire que leur cap, des investisseurs, des petits porteurs comme moi, finalement, on se retrouve toujours, c'est-à-dire que quelqu'un qui a mis 10 000 il y a en gros un an, aujourd'hui, il a à peine 1 000, quoi, finalement.
Ouais, je sais, moi j'ai mis 700 000, dans les deux dernières années, j'ai mis 700 000 de mes propres économies, donc voilà, vous voyez l'effet que ça m'a fait en 2 ans. Comme tout le monde. Votre point est très bon. Moi, j'ai pas fait encore de regroupement d'actions depuis que je suis président. Je me garderai de promettre de ne jamais en faire parce qu'on sait jamais. Je n'en ai pas fait dans les 2 ans et demi qui se sont écoulés. Mais je suis pleinement conscient. Je l'ai dit. Je suis pleinement conscient du chemin de croix, parce que c'est littéralement un chemin de croix que nos actionnaires, qu'ils soient institutionnels ou petits actionnaires individuels, ont subi. Et c'est pour ça que je l'ai dit clairement, Jamel. Je ferai tout ce que je peux pour que les solutions soient équilibrées et que ce ne soit pas, de nouveau, les actionnaires qui perdent tout au bénéfice des autres stakeholders. Donc je suis conscient de ça. C'est pas facile. Je ferai tout ce que je peux. Il faut me donner un peu le temps d'essayer de trouver les bonnes solutions. Merci.
On compte sur vous. Merci quand même de
m'avoir fait. Vous pouvez comptez sur moi, vous pouvez. Je vous garantis pas le résultat parce que personne ne pourrait le garantir aujourd'hui, mais je vous garantis le commitment de Eric et de moi, d'Olivier Rognard, notre directeur financier, de toutes les équipes pour trouver la bonne solution.
Merci à vous et bonne continuation.
Merci, Jamel.
Merci.
Une autre question.
La prochaine question vient de Eric Blaine de Finance Connect. Allez-y, s'il vous plaît.
Oui, désolé, juste 2 petits points, mais qui, je pense, éclaireront un petit peu la vision. Vous avez parlé du calendrier. Vous avez 30 jours, vous êtes en procédure de sortie de sauvegarde. S'il n'y a pas de solution au bout de 30 jours, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'il en est? Et puis mon second point, c'est je suis très surpris que BPI n'est pas du tout intervenu ni en capital ni en dette. Est-ce que vous avez l'impression que BPI, dont on vous parle beaucoup, serait capable de vous épauler en tant que leader français du numérique?
Bon, je l'espère, pour être très clair. Je pense qu'effectivement, c'est bien dans les missions de la BPI. Donc je suis sur ce sujet-là, Eric. Je suis sur ce sujet-là. Il est évident que c'est une pierre qu'on ne peut pas laisser refermer. Je vais faire tout ce que je peux. Il n'y a pas que la BPI, d'ailleurs, il y a d'autres éventuels organismes d'État, mais la BPI en est principale. Et donc, je suis dessus. C'est la seule chose que je peux vous dire à ce stade.
Et sur le calendrier, techniquement, je parle uniquement techniquement, qu'est-ce qui se passe au bout de 30 jours? C'est une suspension provisoire de poursuite à nouveau et puis négociation avec un liquidateur? Comment ça se passe?
À aujourd'hui, pour l'instant, on a une conciliation qui va démarrer. Et comme vous le savez, en France, c'est ce que je voulais un peu dire quand je parlais des protections juridiques en France. On a des chemins à partir de, bien sûr, notre solution, ce serait que ce qu'on préférerait, que ça se règle dans les 30 jours. Mais sinon, si vous voulez, on a un plan de sauvegarde qui existe, c'est pour ça qu'on est allé voir le tribunal de commerce hier matin. On a un plan de sauvegarde qui existe. Il suffit de s'en remettre aux échéances de ce plan de sauvegarde, et notamment le point important, c'est l'ouverture de la conciliation, dont j'espère recevoir l'ordonnance d'un moment à l'autre, si elle n'est pas déjà sortie. Et ça donne c'est fait exprès dans l'arsenal juridique français, ça donne du temps pour trouver les bonnes solutions. En d'autres termes, si vous voulez, si on s'est mis d'accord et que tout va bien au bout de 30 jours, c'est fini, l'incident est clos et on avance comme on était 30 jours avant. Si on ne s'est pas mis d'accord dans les 30 jours, eh bien, il y a tout un chemin dans le cadre de la conciliation, dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde qui nous permet de passer un peu plus de temps à essayer de trouver la bonne solution.
Juste un dernier point, si je dis que dans votre malheur, dans notre malheur, le rapport de force avec les détenteurs d'obligations s'est a priori quelque peu modifié en votre faveur, c'est une bêtise ou pas?
Bon, chacun évalue moi j'évalue jamais en termes de rapport de force. C'est pas mon style. Moi, je suis plutôt un homme de consensus et de négociation et de faire en sorte que tout le monde y retrouve son compte. Mais je l'ai dit et je l'ai pas dit par hasard. D'un côté, il y a des actionnaires qui n'ont plus que 75 millions à défendre et de l'autre côté, il y a 450 millions de dettes. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup.
Une dernière question peut-être. S'il y en a une. Est-ce qu'il y en a une? Allô?
Alors, merci pour la patience. La prochaine question vient de Nick Bourg. Allez-y, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Nicolas Bourguignon de Stifel. Bonjour Pierre et Eric. Merci bien pour l'appel aujourd'hui. Juste pour voir si vous pouvez nous dire un petit peu la situation des liquidités aujourd'hui. Je pense que le coupon, c'était à peu près 10 millions qui devrait être payé, qui aurait dû être payé. Et donc, avec les nouvelles lignes qui ont été émises avec les banques récemment et tout ça, juste pour avoir une idée de la liquidité aujourd'hui du groupe.
Non, je ne vais pas donner ça. C'est une information qui n'est pas disclosée. On a dit qu'on avait démarré l'année au 1er janvier avec 42 millions en caisse. Et j'ai dit de manière très claire que la raison pour la suspension du coupon, c'était pas la liquidité de mars, je l'ai dit, hein, la liquidité de mars oui. Était très très largement suffisante, c'est l'effet sur avril, mai et juin d'une énorme baisse des prises de commandes, c'est ça qui a fait qu'on, hein, ce que j'appelle énorme, c'est 30% au moins, mais ça peut être plus, et c'est pour ça qu'on a pris la décision de prudence, la décision conservatoire, de dire on suspend le coupon, parce que c'est quand même, vous l'avez tout à fait bien dit, c'est 10 millions, et c'est donc très important. Donc à aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de problème de cash dans l'entreprise. En mars, notre sujet, c'est de nous protéger contre des effets qu'on sait, on l'a dit dans le communiqué de presse, potentiellement significatifs. Voilà.
D'accord. Et juste pour confirmer, donc avec Madame Bourboulou, là, avec les discussions avec les créanciers, elle va faire partie des discussions dès le début.
Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît?
Avec les discussions qui vont se passer là maintenant dans les 30 jours avec les créanciers, les bondholders, Madame Bourboulou, elle va être partie de ces discussions.
Ah ben, bien sûr, c'est son rôle. Si le tribunal de commerce rend l'ordonnance qu'on attend, hein, ou a peut-être déjà rendu, je ne sais pas, l'ordonnance qui nomme Madame Bourboulou en conciliation, ben c'est même elle qui est la patronne de la discussion et de la négociation. Il se trouve que Hélène et moi, on a une relation, comme je l'ai dit, qui est très forte et qui est très amicale. Donc, je sais qu'on travaillera bien ensemble. J'aime bien ça dans le droit français. Hein, c'est le conciliateur qui a pour charge d'amener tout le monde à la table et de trouver le point de passage.
Merci bien.
Pas de problème. On va prendre une dernière question et puis fermer le call, s'il y en a une.
Il n'y a pas de questions pour l'instant. Dernier rappel, si vous voulez faire une question, c'est étoile 1.
Pour une dernière question, si quelqu'un a encore quelque chose sur le...
Ok. La dernière question vient de la partie de Alain Kiche de FO. Allez-y, s'il vous plaît.
Bonjour Eric et bonjour Pierre. Merci pour cette...
Bonjour Alain.
Qui nous apporte de l'éclairage. J'ai une question. Simple, c'est de dire comme on ne sait pas combien de temps va durer la crise de ce virus, est-ce qu'on peut dire qu'on a un mois pour négocier? C'est-à-dire qu'en gros, il y a d'autres paiements pour le coupon, effectivement, on peut négocier si on sait que ça va durer 3 mois, mais si, par exemple, ça durait 6 mois, est-ce que la négociation de maintenant, est-ce qu'il ne faut pas prévoir d'ores et déjà, justement, des avenants à la négociation que vous allez avoir et lier ce qui se passe au virus? Parce que, très franchement, et vous avez raison de le dire, Pierre, les actionnaires ont 75 millions, les créanciers ont 450 millions, et il y a quelque chose d'anormal dans cette situation-là. C'est-à-dire que le worst scénario, les actionnaires l'ont vécu, pas les obligataires. C'est un peu mon sentiment. Donc, il faut impérativement tenir compte de la durée du virus et de la manière dont les choses vont se passer dans la négociation avec eux, et qu'ils aient l'amabilité d'accompagner l'entreprise, car c'est dans l'intérêt de tous, et on partage avec vous évidemment cette opinion. Merci, merci beaucoup pour la conf call.
Merci Alain, merci de votre confiance. Oui, on n'est pas du tout tenu de tout régler dans les 30 jours. Rien ne nous impose. Et si on s'apercevait qu'au bout des 30 jours, on n'a pas de solution satisfaisante sur la table, les étapes suivantes, je crois qu'un de vos... ça a été posé, les assurances, notamment c'est ce qu'on appelle un « standstill ». C'est-à-dire, le conciliateur frise les choses, on se met sur pause et on continue à discuter. Donc, c'est pas un coup près, c'est pas quelque chose auquel on est tenu, c'est pas quelque chose auquel, pour être très répondre, je pense, à votre préoccupation, je vais pas faire n'importe quoi en 30 jours pour avoir un quick and dirty, comme on dit, et qui ne soit pas satisfaisant pour le futur de l'entreprise. Donc voilà, c'est très très clair. Et on est bien dans cet état d'esprit. Alors, il n'y a pas de discussion. D'abord, il faut que je sache quel est l'état exact du manque de trésorerie nos hypothèses de manque de trésorerie pour 2020. C'est ce que Olivier Renard et Eric sont en train de calculer. Une fois que j'aurai l'ampleur du trou, si vous voulez, je verrai les solutions et j'intégrerai, comme vous l'avez dit, les équilibres financiers à venir dans la solution. Donc, comptez sur nous. Il n'y a pas d'envie. On est bien sur ce schéma-là.
Merci à vous.
Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vais demander à nos équipes de relations actionnaires de tout de suite mettre cette discussion sur le site. Actionnaire, n'hésitez pas à la partager avec certains de vos amis, collègues qui se posent des questions. On a fait ça en sorte que les gens savent exactement de manière transparente là où on en est aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'on refasse, dès que c'est justifié, un de ces calls. Je vous remercie, je pense beaucoup à vos familles et à... je disais à un de nos actionnaires ce matin, et je crois qu'il faut qu'on ait la mesure des choses. Ce local, c'est fondamental et vous pouvez compter sur mon engagement total. On est les deux seuls dans le building. Enfin, je viens de voir notre directeur juridique qui est rentré. Donc, vous pouvez compter sur notre engagement total. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on respecte les directives du président et qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que la France sorte de cet épisode sanitaire catastrophique et que on en sorte le mieux possible. Donc je vous souhaite à vous et à vos familles le meilleur possible pour les 15 jours au moins et puis peut-être un peu plus auxquels nous allons devoir faire face tous ensemble. Bonne journée.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher. Les organisateurs de la conférence, s'il vous plaît, restez connectés pour des instructions supplémentaires.